Il faut sortir les poubelles.
La prochaine fois que vous vous direz « Il faut sortir les poubelles », arrêtez-vous et détendez-vous. Aucun gendarme ne viendra vous arrêter, ni aucun jugement viendra vous condamner si vous empilez vos poubelles semaine après semaine dans la cuisine, puis le salon, voire dans la salle de bain. Si vous sortez les poubelles, n'est-ce pas que vous avez besoin d'ordre, de propreté, d'hygiène, d'esthétique et de confort, en somme de rendre votre maison accueillante. Demandez-vous dans quelle énergie vous vous sentez si vous vous mettez en contact avec les valeurs que vous servez au lieu de vous soumettre à la contrainte du « il faut ». J'ai pas le choix, j'ai pas le temps. Je sais qu'existent bien sûr des circonstances dans lesquelles les possibilités de choix peuvent être considérablement réduites, voire anéanties. Je pense par exemple que la violence ou la contrainte physique peuvent supprimer la liberté d'action. Si nous avions davantage conscience de nos besoins, nous verrions plus clairement que nous choisissons nos priorités et que l'usage de notre temps en est un reflet évident. Notre agenda est un indicateur de priorité. La personne qui travaille 10 à 12 heures par jour et qui dit « je n'ai pas le temps, avec le métier que j'ai, je n'ai pas le choix », cette personne pourrait reformuler cela en disant, par exemple, « ma priorité actuelle », c'est ma sécurité matérielle et celle de ma famille. Je n'ai pas encore eu l'occasion de trouver un travail mieux rémunéré qui me permette d'être plus disponible. Pas encore et, pour le moment, ouvre la possibilité d'une liberté de changement. Ces éléments sont un fantastique indicateur de nos priorités et donc de nos choix. Une fois de plus, nous le constatons. Si nous nous responsabilisons par rapport à nos choix ou à l'usage de notre temps, nous nous donnons un pouvoir pour changer ce que nous aimerions changer. Une maxime anglaise dit avec humour « Si tu n'aimes pas cela, change-le. Et si tu ne le changes pas, aime-le. » Respecter une règle implique qu'on la comprenne. De surcroît, comprendre nous donne un pouvoir d'action. Le sous-titre « Berger ou barbelé » m'est venu il y a 2 ans en traversant une région de France que j'avais connue voilà 25 ans. Elle était à l'époque encore si reculée et authentique qu'elle représentait pour beaucoup le rêve du retour à la nature. J'étais alors un adolescent fasciné par le métier des bergers qui vivaient là et dont j'aimais l'allure de poète contemplatif baignant dans l'univers. Ils promenaient librement leurs troupeaux à travers la garrigue austère, de ravines en coteaux et d'éboulis en labour, avec une ferme bonhomie. Le berger prenait soin d'ajuster son pas et son itinéraire en fonction du bien-être du troupeau. Revenant dans cette région 25 ans plus tard, je fus frappé de voir les clôtures et les enclos qui tenaient maintenant les troupeaux enfermés. Et le berger est devenu garde-barrière, faute de temps. Mais est-ce vraiment que l'on n'a pas le temps? Ou est-ce que l'on ne veut pas voir certaines priorités? La berge et la chance du fleuve. Je ne sais plus qui a dit cette jolie phrase. C'est vrai que sans la berge, le fleuve devient marécage et ne va pas plus loin. Nous avons besoin de sens comme de pain, de sens dans le double sens de direction et de signification. Tout l'art est de comprendre et de faire comprendre que la berge est l'alliée du fleuve, l'ami, la fidèle, que le fleuve ne subit pas la berge, mais s'y appuie et s'en renforce. Être libre ne signifie pas pouvoir faire n'importe quoi, mais que c'est davantage pouvoir faire ce que l'on a choisi de faire. Nous avons besoin de sentir le sens de notre vie, sa direction, sa signification humaine, philosophique, spirituelle. Et nous avons aussi besoin de nous sentir bien incarnés dans une chair vivante, palpitante, qui peut goûter pleinement le plaisir d'être au monde. Si nous ne prenons pas soin de ces besoins de façon constructive, nous risquons de tenter de les combler de façon destructive. Voici un enjeu qui me plaît particulièrement. Retrouver la présence, la joie et le goût de la vie, même à travers ses difficultés les plus crues, sans les nier ni les refouler. Ni angélisme, ni diabolisme. Seulement faire l'expérience, aussi consciente que possible, de notre incarnation, en tentant d'en éviter les pièges habituels, l'installation dans nos habitudes de fonctionnement, nos principes et nos vieilles blessures, mal ou pas du tout soignées, et la fuite dans l'idéalisation ou la spiritualité désincarnée. Je veux célébrer la vie dans tous ses états, dans tous ses mouvements et dans tous ses moments. La vie qui nous fait chercher ce que nous voulons vraiment, au-delà des contraintes qui s'imposent à nous. La vie qui nous amène à oser faire confiance à nos enfants, à prendre un bain plutôt qu'à cuisiner à contre-cœur. La vie qui nous fait oser partir en roulotte, avec armes et bagages, plutôt qu'accepter l'ennui et la morosité. La vie qui fait résister la petite fille aux pantoufles parce qu'elle veut comprendre le sens de ce qu'on lui demande et voir sa liberté respectée. Cette vie qui invite les parents à redéfinir leurs priorités et à délaisser le jardin, la maison, la voiture pour être avec leurs enfants. Qui nous fait changer ce que nous n'aimons plus et aimer ce que nous ne changeons pas, qui nous rend conscients et tout habités par nos valeurs, comme le gendarme qui surveille la sortie de l'école du village, qui nous fait nous asseoir et nous rasseoir avec les jeunes pour nous renseigner mutuellement sur nos valeurs, en vérifier la pertinence et l'efficacité, et partager. Qui nous fait découvrir et nous libérer d'une vieille révolte rentrée sous le beau costume, qui nous fait arrêter notre course pour nous entendre. La vie qui gifle joyeusement Julien pour le sortir de sa torpeur et le mettre au monde. La vie qui, enfin, nous fera sans doute un jour suspendre le budget rénovation, achat de chaises et décorations, pour nous asseoir par terre, s'il le faut, et dans les gravats, afin de nous mettre à l'écoute du cœur. Durant la guerre de 39-45, ma grand-mère, qui était une femme merveilleusement généreuse et très croyante, avait caché des Juifs dans les caves de sa maison. Nous qui, à l'âge de 10 ou 12 ans, y menions nos jeux dans tous les recoins, avions peine à croire que des êtres aient dû se cacher là pour protéger leur vie. Elle nous racontait ces histoires et nous palpitions toujours au moment où arrivait la descente et la fouille des Allemands. Elle avait, sans trembler, osé dire au chef de la patrouille de perquisition que la maison n'abritait que les membres de la famille et qu'elle ne s'y trouvait personne d'autre. J'étais plein d'admiration pour sa dignité et son courage, avec quand même un doute. Mais, bonne maman, vous ne leur avez pas dit la vérité aux Allemands, et vous dites pourtant qu'il faut toujours dire la vérité. S'arrêtant pour réfléchir en fermant les yeux, « Tu as raison, Je crois qu'il faut toujours essayer de dire la vérité. Mais là, vraiment, il y avait quelque chose de plus important que la vérité. C'était la vie. Il fallait respecter la vie. Ainsi, ma grand-mère m'enseignait l'au-delà des mots, des principes et des habitudes.